Nous sommes désormais en plein carême. Et nous savons ce qu'est le carême. Un temps pour renouveler notre fidélité envers Dieu, pour réajuster notre vie sur le chemin qui conduit à Dieu par le Christ, et cela afin de nous préparer à participer pleinement à la Pâque du Christ Jésus. Cela dit, nous envisageons souvent le carême comme un temps où nous avons des choses à faire, des actes de conversion à entreprendre, des initiatives à réaliser. Ce n'est pas faux, mais le carême est d'abord et plus fondamentalement un temps pour laisser Dieu lui-même agir en nous. Un temps pour nous laisser refaçonner par Dieu. Autrement dit, ce qui est premier, ce n'est pas d'abord ce que nous avons à faire, car avouons-le, cela reste assez limité. Ce qui est premier, ce n'est pas ce que nous avons à faire, mais plutôt la redécouverte de ce que Dieu fait pour nous et de ce que Dieu fait en nous. Et ensuite, les actes que nous posons, nos actes de conversion, la prière, le jeûne, le partage, comme le dit la prière de ce jour, sont une réponse à cette découverte de ce que Dieu fait pour nous et en nous. Autrement dit encore, à la racine de la démarche de conversion du carême, et cela vaut d'ailleurs pour toute la vie chrétienne, à la racine de la démarche de conversion, il doit y avoir l'émerveillement pour la fidélité de Dieu, l'émerveillement pour sa sagesse, l'émerveillement pour sa miséricorde envers nous. Et c'est de cet émerveillement que des actes de conversion pourront naître. Les lectures bibliques de ce dimanche nous le disent de plusieurs manières, et j'en retiens trois. Premièrement, dans la première lecture, nous avons entendu le don des paroles de la loi par Dieu au livre de l'Exode. Les commandements sont une charte, un code de conduite pour rester dans l'alliance avec Dieu. Les commandements sont une manière de vivre offerte par Dieu pour continuer à recevoir de lui la liberté. Car, rappelons-nous, le Dieu des commandements, c'est le Dieu qui a libéré son peuple de l'esclavage et qui, précisément, par ses paroles de la loi, ses commandements, continue de donner aux croyants de son peuple le moyen de vivre libre, le moyen de continuer de recevoir cette liberté. L'adoration du Seigneur et de lui seul est source de liberté, comme l'observation du sabbat par le repos, comme le respect de sa famille et le respect d'autrui sont source de liberté. Aussi, la pratique des commandements est la réponse indiquée par Dieu lui-même pour rester dans une relation vivante avec Dieu, continuer de recevoir de lui ses bienfaits et en premier lieu la liberté et avec elle la paix. La loi du Seigneur nous éclaire, elle nous réjouit et nous donne vie, comme le frère Peter l'a chanté dans le psaume. Et puis, dans la deuxième lecture, saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, annonçant l'Évangile, nous dit « Regardez ce que Dieu a fait pour nous dans le Christ Jésus, et en particulier dans le Christ Jésus crucifié. » La croix est une pierre d'achoppement. Pour les Juifs, que saint Paul connaissait bien, la croix est un scandale, car pour eux, il n'est pas possible que l'envoyé de Dieu ait subi un sort aussi infamant. Une telle contre-performance, un tel contre-signe ou contre-miracle, pour ainsi dire, un échec, c'est-à-dire exactement le contraire de ce que l'on attendait du Messie. Et pour les Grecs, un but de sagesse, disons, pour l'esprit du monde, car cela n'est pas le propre des Grecs, pour l'esprit du monde, le salut par la croix apparaît comme une simple sottise. Or, saint Paul, à contre-courant, nous dit que la croix de Jésus, au contraire, révèle et réalise en quelque sorte la puissance et la sagesse de Dieu. La puissance de Dieu, ce n'est pas un scandale, et la sagesse de Dieu, ce n'est pas une sottise. À la source de la conversion au Christ, pour nous, à la source de la conversion au Christ, il y a la contemplation comme étonnée et émerveillée de la puissance et de la sagesse de Dieu qui se réalise dans la croix du Christ, c'est-à-dire de la manière de la moins attendue par ce qu'un esprit humain peut imaginer. La croix de Jésus que nous regardons nous fait découvrir ce qu'est la vraie puissance, ce qu'est la vraie sagesse et la miséricorde aussi, celle de Dieu. Et puis, dans l'Évangile, enfin, en chassant les marchands du temple, Jésus demande que le lieu du service de Dieu, c'est le sens le plus fondamental du temple, la présence de Dieu, et par conséquent le lieu du culte de Dieu, Jésus demande que le lieu du culte de Dieu soit pur. Et à travers cela, Jésus demande que notre service de Dieu, notre culte de Dieu, soit dégagé de tout ce qui n'y a pas sa place. Alors certainement, entendant ce texte, nous serions tentés de vouloir mettre nous-mêmes de l'ordre ou faire le ménage dans l'Église. Mais cette lecture de Carême nous invite à commencer par faire le ménage en nous-mêmes. Et lorsque nous entendons ce récit en pensant à notre chemin de Carême, cet acte de Jésus chassant les marchands et leur matériel de l'intérieur du temple demande que notre personne, notre esprit et notre corps retrouvent la pureté ou la simplicité de la louange de Dieu sans être encombré par tout ce qui n'a pas sa place dans une relation vraie et authentique avec Dieu. Il faut donc désencombrer. Et désencombrer, c'est précisément le rôle du jeûne, de la prière et de l'aumône, ou du partage sous toutes ses formes, en commençant peut-être tout simplement par le partage de son temps et de son attention. Et puis, enfin, le récit des marchands du temple nous montre également le but de notre démarche de conversion. Nous préparer à renouveler notre foi en la résurrection de Jésus, annonçant qu'il relèvera le sanctuaire de son corps. À la source de la conversion, il y a l'émerveillement suscité par la résurrection de Jésus, par la puissance de vie qui est en Jésus. C'est Jésus lui-même qui relèvera le sanctuaire de son corps, la puissance de vie qui se trouve en Jésus lui-même et que nous découvrons dans son propre corps qu'il nous a donné dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est un programme pour ce carême et pour toute notre vie. Redécouvrir les merveilles que Dieu a faites pour nous dans le Christ. Retrouver l'émerveillement et peut-être même retrouver la grâce de l'étonnement. En bref, refaire l'expérience de la reconnaissance de la générosité de Dieu. Et cela afin de répondre à Dieu par une vie plus libre, grâce à l'observance de ses paroles, une vie plus libre, une vie plus sensée et plus lumineuse par la contemplation de la croix du Christ, et enfin, une vie plus pure ou plus authentique en nous désencombrant de ce qui fait obstacle à une relation vraie et simple avec Dieu.